Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Comme promis, voici la deuxième émission d'Antiquissimo consacrée au musée bleu à Arrélaté et à deux personnes extraordinaires dans ce musée, Aliénor Talagrand et Émilie Tabé, qui nous ont consacré une passionnante et très riche visite avec, face aux objets, toujours une contextualisation et, en écho à ce trésor archéologique, une lecture d'un texte littéraire par Émilie Tabé. Faute de temps, vous n'entendrez pas ces lectures qui sont souvent proposées au Musée Bleu à Arles, mais vous aurez une idée de l'originalité et de l'intérêt de ces parcours personnalisés que vous pouvez vous aussi demander.
On a des 7 embouchures qui sont présents à cet emplacement-là et qui nomment la ville Arélate, ça veut dire la ville dans les marais. Donc, dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, on sait que la Camargue et les Moustiques sont bien installés. Déjà, ils sont déjà présents. Arélate, donc, c'est une ville celto-ligure, mais c'est déjà aussi un comptoir grec. Les Grecs vont arriver vers 540-530 avant Jésus-Christ et ils vont l'appeler Téline, la nourricière. En fait, ça, c'est vraiment en lien avec sa position au bord de Rhône et donc déjà le commerce qui est extrêmement présent dans la ville. Les Romains ne vont pas s'y tromper. Quand ils vont arriver beaucoup plus tard, ils vont arriver au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et en 46 avant Jésus-Christ, c'est Jules César qui va fonder une colonie romaine à Arles. Je vous expliquerai tous les détails encore un peu plus tard. En tout cas, sachez que les Romains, ils ont beaucoup aimé cette ville pour sa position géographique, qu'elle soit en bord de Rhône, mais également, ils vont construire énormément de routes. Vous allez avoir la route, la Via Domitia, évidemment, pour aller à Nîmes. Vous allez avoir la Via Aurelia pour aller, du coup, sur votre droite, pour aller vers l'Italie. Et la Via Agrippa pour aller vers le Rhône, vers le nord. C'est-à-dire que soit vous voulez aller en Italie, en Espagne ou vers le nord de l'Empire, vous êtes obligé de passer par Arles. Donc ça en fait une ville carrefour, une ville monde. Et en plus, vous avez un port fluvio-maritime. Ce port fluvio-maritime, je m'explique. Arles est en bord de Rhône. Comment faire quand vous venez de la mer Méditerranée? Vous allez aller dans un avant-port de Fos-sur-Mer. Vous allez changer de bateau. Un bateau, parce qu'un bateau pour la mer, c'est un bateau qui est extrêmement profonde. Vous allez prendre un bateau à fond plat ou avec une quille vraiment très légère pour passer les bancs de sable, tout simplement, du Rhône et arriver jusqu'à Arles. Et à Arles, vous allez décharger pour prendre des chalands, bateaux complètement à fond plat, l'équivalent de péniche actuelle. On verra notre chaland aussi un petit peu plus tard. Et c'est pour ça qu'on dit que Arles est un port fluvio-maritime, deux types d'embarcations. Mer et fleuve, où c'est aussi un port de rupture de charge. Vous êtes obligé de décharger pour recharger pour repartir.
Deux arrêts nous attendent désormais devant les grands hommes de cet Arles antique. Jules César, bien sûr, puis Auguste. Arles et leur ville. Il sera judicieux ensuite de nous intéresser à ce fameux bateau à fond plat remonté du Rhône, un chaland exposé en 2013 dans une toute nouvelle salle. Écoutez Aliénor.
Donc, face à vous, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc un buste d'un homme, donc buste réaliste d'un homme d'âge mûr, on pense entre 40-50 ans. On le voit bien, pourquoi? Parce qu'il a des traits marqués, que ce soit les plis au niveau du cou, au niveau de la bouche et du nez, les rides aussi également des yeux, du front et un début de calvitie. Donc ce portrait, il va dater, comme il est réaliste, il est de la République romaine, on pense qu'il est de 50 avant Jésus-Christ. Il a été retrouvé, comme disait madame, dans le Rhône en 2007, il a été exondé, donc c'est-à-dire sorti des eaux, à ce moment-là, et on l'a trouvé dans un dépotoir. Donc c'est une poubelle, hein. C'est une poubelle antique où on avait des déchets. Déjà, je vous mets un peu la puce à l'oreille, pourquoi se trouve-t-il dans ce dépotoir? Bon, on va voir ça un peu en détail. Alors, comme je vous disais, pourquoi César est important pour Arles? Parce qu'il va la fonder donc une colonie romaine. Déjà, une colonie romaine, c'est quoi? Ça veut dire que Arles a les mêmes droits civiques que les Romains, que c'est une ville, on n'est pas en pays conquis ici. Donc les Arlésiens sont des Romains, comme ceux qui sont à Rome, en Italie, etc. Mais pourquoi César fait ça? À la fin de la République, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu dans vos cours d'histoire, il y a un triumvirat dont la République est, est dirigée par trois personnages, César, Pompée et Lépide. Bon, vite, Lépide il va vite dégager, hein, voilà. Et parce que l'homme reste l'homme, pour moi l'homme est un loup pour l'homme, donc c'est-à-dire que partager le pouvoir, ils n'aiment pas trop ça. Et donc finalement, César et Pompée vont se mener une guerre civile. À un moment donné, il va y avoir une bataille navale qui va être menée au large de Marseille. Le seul problème, c'est que César n'a pas de flotte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander aux Arlésiens de lui construire 12 bateaux de guerre en 3 semaines. Défi relevé. Je vous avoue, on ne sait pas comment ils ont fait. En tout cas, César peut faire sa bataille et surtout la gagner contre Pompée. Donc qu'est-ce qu'il va faire puisque Marseille soutenait Pompée? Il va dépouiller toute la province de Marseille au profit d'Arles qui va créer leur colonie romaine et installer les vétérans de la 6e Légion. Alors ça, on est en 46 avant Jésus-Christ. Si vous vous souvenez, César est assassiné en 44, donc 2 ans après. Donc il n'a pas le temps de faire quoi que ce soit à Arles, même de s'y installer, de construire ou quoi que ce soit. Mais déjà, il pose une base juridique importante. Ensuite, nous, sur le cartel, on marque que c'est un portrait présumé de Jules César. Déjà, qu'est-ce qui nous fait dire que c'est un portrait présumé de Jules César? Déjà, on se rend compte que c'est un portrait extrêmement réaliste et on l'a comparé avec les autres portraits que l'on a de Jules César, notamment le portrait de Tusculum qu'on a découvert à Tusculum en Italie en 1825. Le seul problème avec ces portraits, c'est qu'on en a très peu et c'est que des portraits post-mortem. Donc, forcément, ils ne sont pas très réalistes. On a superposé les images pour essayer de voir si ça correspondait. Alors je vous avoue que l'arête du nez qui est cassée pour notre exemplaire du rôle, ça nous a pas facilité la tâche parce que ça aurait permis de mieux l'attribuer. C'est pas forcément très convaincant. Bon, deuxièmement, on sait que c'est un artiste plutôt de hellénistique, puisqu'il a une veine réaliste, qui a réalisé ce portrait, donc c'est déjà un grand artiste. Donc ça veut dire qu'il faut le payer et il se trouvait un artiste de renom. De plus, au niveau du marbre, c'est du marbre de Dokimélion, on sait donc qu'il vient de Grèce, donc il faut également pouvoir se payer ce marbre-là. Donc on est déjà sur du très haut personnage. Personnage aisé, bien. Ensuite, comme je vous disais, on est en plus dans la partie chronologique de la République, puisqu'on est à peu près en 50, ça correspond à César. Bien. Seulement, en archéologie, tant qu'il y a un doute, on ne peut pas affirmer qu'il s'agit du buste de Jules César. Donc c'est pour ça qu'on a mis présumé, parce que déjà, ça ressemble pas à énormément. Pourquoi un buste de Jules César se trouverait à Arles et ensuite a été jeté dans un dépotoir? Donc, on partirait plutôt sur une hypothèse que c'est un haut personnage arlésien qui s'est fait représenter sous les traits de Jules César pour montrer son affiliation et finalement au personnage, et puis quand cet aristocrate n'était plus de ce monde ou sa famille n'était plus importante, on a tout simplement jeté le buste au dépotoir. Donc c'est pour ça qu'on dit présumé, désolé pour le mythe. Jules César il pose la première pierre juridique pour Arles, mais évidemment ça va être son fils adoptif Octave, qui va devenir le premier empereur sous Auguste, que je vous présenterai un peu plus tard, qui va en fait pouvoir bâtir et construire la Arles romaine telle qu'on la connaît. Et c'est pour ça que Arles, on dit que c'est une ville augustéenne, beaucoup plus que de la République finalement. Et donc Auguste va construire tous les bâtiments possibles et inimaginables pour que Arles devienne la petite Rome des Gaules. Pour les Romains, il faut savoir que Rome est vraiment la ville modèle, et à chaque fois qu'ils construisent, c'est toujours en fonction de cette référence de Rome. Là, on est sur une statue monumentale, plus grande que nature, déjà là, elle fait 3,20 m, en marbre de Carrare pour le corps, calcaire pour la tombe, et on est devant une représentation idéalisée. On sait par les textes antiques que Auguste était plutôt malin, donc je dis qu'il n'a pas du tout un corps d'athlète. Donc, ici, on est devant un héroïque, donc donc il est représenté comme un héros et comme un dieu. La nudité, elle est réservée aux dieux et déesses, quand même, puisqu'ils ont un corps parfait. C'est pour ça qu'on a cette musculature impeccable. Comment on sait que c'est Auguste? Les Romains ont pensé à tout, ils sont très pragmatiques, on les reconnaît par la chevelure. Chaque empereur a une coupe de cheveux différente. Ici, on a la fourche et la pince en forme de crabe au niveau de la frange qui permet de savoir que c'est Auguste, tout simplement. Alors, cette statue monumentale, elle était présente au cœur de la cité, puisqu'elle était présente dans le théâtre antique. Et pourquoi Auguste, finalement, a représenté, finalement, a décidé de faire une nudité héroïque et plus du tout un portrait réaliste? C'est de la propagande. Donc déjà, Auguste, lui, que je vous dis, c'est le premier empereur, donc il met fin à la République, il décide de prendre seul les rênes du pouvoir de l'Empire romain, et il décide de se faire descendre du dieu Apollon, le dieu des arts, du théâtre et de la musique. Donc il est représenté comme son descendant, donc comme un dieu, et cette statue était pas très loin de la Vénus d'Arles. Pourquoi? Parce que César prétendait descendre de Vénus. Et donc il y a une filiation. Auguste, au tout début du règne, c'est hyper important pour lui toujours de présenter comment il est légitime et comment il est dans la droite lignée de son fils adoptif, Jules César. C'était le neveu de Jules César. Jules César a eu deux filles qui sont mortes très jeunes. Il n'y a pas eu de descendance directe. Et comme il veut être dans la droite lignée de son père adoptif, il va construire pour Arles. Puisque son père avait déjà posé une première pierre, c'est lui qui va faire le théâtre, l'amphithéâtre, le forum. En plus, on sait qu'Auguste est passé à Arles, puisqu'il est beaucoup allé en Espagne. Donc nous, on était ville, passage obligé, c'était vraiment très important. L'Empire est aussi important avec cette notion de propagande. Et la notion de propagande, elle n'est possible que si vous avez une image forte. Et donc on va diffuser énormément de portraits de l'empereur et de la famille impériale qui vont irriguer dans l'ensemble de l'Empire romain. Les Romains sont très intelligents, ils sont très tolérants. Ils acceptent tous les types de croyances, toutes les cultures. Par contre, une seule exigence, vous devez rendre un culte à l'empereur, qui est donc un empereur divinisé. Et à cette condition-là, vous devenez romain. Et donc, le fait de rendre un culte à l'empereur, eh bien, c'est un facteur de romanisation important, surtout qu'en plus, cette statue-là, pardon, est présente au théâtre. Au théâtre, vous voyez quoi? Des pièces de théâtre en latin. Donc, vous êtes encore romanisé. Et évidemment, quand vous êtes une aristocratie locale, tout ce que vous avez envie de faire, c'est de suivre le pouvoir qui est en place. Donc, vous allez forcer le trait et vous romaniser également. Sur ce Auguste, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, cette notion de propagande, elle est très importante, et c'est pour ça qu'il a fait construire tous les bâtiments dont je vous ai parlé, parce que ce sont tous ces bâtiments, théâtre, amphithéâtre, et ensuite le cirque romain au IIe siècle, qui sont vraiment les facteurs de romanité. Donc à Arles, ce qui est important, c'est qu'on n'est plus chez des Celto-Ligures, nous on dit qu'on est chez des Gallo-Romains. On est vraiment ici, quand dans une petite Rome. Et pour finir sur cette partie-là, vous voyez que jusqu'à présent, on n'a pas suivi de parcours imposé au sein du musée. C'est tout simplement, je vais faire un petit peu écho à l'architecte Henri Seriani qui a créé ici une cité muséale. Donc il vous propose ici une déambulation. Pas du tout un parcours imposé. Et là, on est au cœur du musée, au cœur de la cité, avec le théâtre, l'amphithéâtre. On va ensuite s'excentrer pour aller au bord du Rhône, pour aller vers le port et vers le chalet. Et quand on reviendra et qu'on finira la visite, on finira par sortir de la ville avec la nécropole, les aliscans. Voilà. Par rapport au musée de la Romanité, voilà, si vous voulez un peu comparer, c'est pas du tout pensé de la même façon. Et cette extension a été réalisée pour ce chalet. Alors ce chalet, son petit nom s'appelle Arles Rhône 3. Donc, sachez qu'il y a plus d'une quinzaine d'épaves dans le Rhône actuellement. On a choisi celui-ci par rapport à son état de conservation parce qu'il est conservé à 93%. Il y a juste une partie de la mer, au niveau de la petite, et on a mis en fait une planche de bois qui est ensalée un peu plus importante, qui est manquante. Mais sachez voilà, que le Rhône, et c'est la chance de la ville d'Arles, est une manne en fait, pour les découvertes archéologiques et le limon, donc la vase, l'argile, ça conserve extrêmement bien, même le bois. on peut le voir. Donc ce chaland, il a été exondé, donc sorti des eaux. Il fait 300 mètres, je fais ma Marseillaise, ça va pas du tout. On doit faire 30 mètres, merci. Il fait 2,90 de large, ça c'est sûr.
Combien de large ?
2,90 de large et 31 mètres. Merci pour celui qui n'est pas dans l'œil, ce qui n'est pas mon cas. Et donc il a dû être saucissonné en morceaux de 2 mètres pour être remonté, parce que le bois, quand il a pris l'eau pendant 2000 ans, en fait il est une éponge, et donc il est extrêmement mobile, il bouge et il ne se tient plus. Donc, le but ensuite, ça a été de l'imprégner dans des bains pendant plusieurs mois pour que ce soit de la résine qui prenne la place de l'eau, en fait, au cœur de la fibre du bois. Aujourd'hui, donc, il fait partie d'un programme de conservation-restauration suivi par l'UNESCO, et on se rend compte que depuis 2013, notre papy en bois, il s'affaisse sur lui-même par l'effet de la gravité. Donc, on est toujours un petit peu en lutte, et pour découvrir peut-être un autre moyen de permettre de conserver sa forme. Alors, notre chaland, il est utilisé pour la navigation fluviale. Comme je vous expliquais, c'est l'équivalent de nos péniches. Il est à fond, complètement plat. Et là, je vais tout de suite rebondir sur une question d'une de vos camarades qui me disait « Mais comment il faisait pour remonter le Rhône ? » Parce que finalement, le fleuve n'est pas comme un autre. En effet, il descendait le fleuve de Lyon vers Arles en suivant le courant. Il avait juste à sa poupe une rame gouvernail pour se diriger, pour être bien centré. Donc ça lui prenait quelques jours. Par contre, pour remonter le fleuve, eh bien là, je vous montre ce mât. La forme du mât qui est très particulière. Il n'y avait pas de voile, il n'y avait pas de rame. Il y a un trou pour mettre, eh bien, une corde.
Et donc,
il était allé par une vingtaine d'hommes sur les deux rives pour remonter.
Par Obélix.
Exactement. Ouais, on estime qu'un homme peut tracter 1,5 tonnes.
Parce que ça flotte. Donc la main, c'est différent.
Le poids est différent. Voilà. Vous l'avez sur le relief de Cabrières au musée archéologique d'Avignon, où on voit justement des hommes avec des cordes tirer le bateau. Et là, par contre, ça prend plus de 6 semaines. Donc, c'est extrêmement long de remonter, finalement. Notre chaland, qu'est-ce qu'il pouvait remonter ? Eh bien, des blocs de pierre, de la matière première, du calcaire, comme on peut voir ici. Alors, ici, c'est des facsimilés, hein, parce que notre...
Il supporterait pas.
Voilà. Hein. Il est devenu extrêmement fragile. Maintenant, il ne supporte plus aucun poids. Mais vous voyez qu'à l'intérieur, il y a un bois beaucoup plus clair, avec des trous. Il pouvait aussi donc transporter des bestiaux, ovins, bovins. On va avancer tranquillement, et vous voyez qu'à l'arrière, au niveau de la pelle gouvernail, il y a un espace pour les marins, un espace de vie, vraiment entre guillemets, où il y a une amphore coupée en deux qui servait finalement de cuisine. Voilà, c'était la vie au bord. Comment ce bateau s'est retrouvé dans le Rhône et entre guillemets dans les mains de nos archéologues ? On pense qu'il a coulé lors d'une crue surprise une nuit. Il était chargé, sûrement d'une cargaison en pierre. L'eau a monté tellement vite que finalement il s'est retrouvé submergé, il a coulé. On sait que l'équipage n'était pas sur le bateau lorsque celui-ci a coulé, pas retrouvé finalement l'embarquement. Exactement. Et donc on pense que tout simplement, il dormait en terre la nuit pour ensuite reprendre normalement le chemin de la main. Je sens quand même que ça finit plutôt bien pour notre géant au pied d'argile. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va circuler tout autour du bateau. Et juste, j'aimerais attirer votre attention sur cette extension qui nous parle du transport. Notamment, évidemment, du transport de matières premières, que ce soit donc le calcaire, que ce soit des sarcophages comme ceci, pareil en calcaire, parce qu'on a très peu de pierre dans la région, par les Alpilles, un peu dégrossies. Vous allez avoir des lingots de plomb, de cuivre également. Vous allez avoir aussi des métaux recyclés, des morceaux de statues, des morceaux d'ameublement. C'est pas des vraies statues, c'était vraiment des morceaux qu'on prenait pour recycler, pour refaire fondre et ensuite refaire des objets. Vous allez ensuite, on va ensemble tourner évidemment pour voir toutes ces amphores. Alors sachez, une forme est égale un contenant spécifique, et ça met en avant que déjà Arles est une ville carrefour, est une ville mont, comme j'aime bien dire, et avec la carte du commerce maritime, qu'il y a des denrées qui viennent des quatre coins de l'Empire romain.
Avant de quitter Aliénor, un dernier aspect de cette visite, les bijoux. C'est la passion de notre guide qui en a fait sa spécialité. Alors écoutons-la une dernière fois avant de nous quitter. Au revoir.
Et dans le monde romain, c'est surtout les femmes qui vont se bijouter. Les hommes vont juste avoir des anneaux sigillaires, donc c'est-à-dire qu'ils pour marquer, signer des documents administratifs, des contrats, ou bien imprimer dans la cire. Donc c'est vraiment lié à une pratique beaucoup plus juridique. Les bijoux les plus luxueux que vous allez pouvoir voir dans la vitrine sont en or et vont rapidement associer avec des gemmes. Vous allez voir beaucoup d'agates, de quartz, une petite pierre bleue qu'on appelle une agate bleue, c'est du Nicolo, c'est vraiment les seuls à utiliser cette pierre-là, c'est les Romains. Ils ont vraiment aimé cette pierre-là en bleu. Une agate, c'est une pierre avec des couches, avec des couches de couleurs différentes. Et l'alliance la plus top ici, on va dire, c'est une alliance émeraude et perle naturelle. On en a beaucoup, notamment dans les trésors comme les trésors du couteau de Lyon, qui sont des trésors datés du 3e siècle, beaucoup alliances émeraudes et perles naturelles. On en a une ou deux, c'est déjà ça. Il va y avoir une grande unité de style, c'est-à-dire que le bijou c'est un petit objet, donc il va beaucoup voyager, et donc il est emmené par les marchands itinérants, par donc les glypticiens, les lapidaires, hein, ceux qui vont graver les pierres, en creux pour des intarsies, pour des camées, qui vont tout simplement les façonner pour les polir. Et donc vous avez aussi le rôle d'un objet de troc, diplomatique, cadeau, et donc ils vont beaucoup voyager dans tout l'Empire romain. Ce que j'essaie de vous dire, clairement, c'est que ces bijoux-là, vous les retrouvez partout dans l'Empire romain. Il y a une unification de style assez incroyable au niveau des bijoux. En plus, le bijou, c'est quand même un signe, comme je l'ai dit, ostentatoire, donc plutôt pour une aristocratie. Quand vous êtes une aristocratie locale, vous avez envie d'être romain, de montrer que vous êtes haut comme les Romains. Donc, vous allez avoir un bijou de style romain, vous allez complètement... Donc, nous, à Arles, en tout cas, on n'a plus du tout de bijoux celto-ligure, par exemple. On n'a plus ce passé-là qu'on a conservé, il n'y a vraiment que le passé gallo-romain qui a tout effacé. Ce qui va caractériser la bijouterie romaine, je vous l'ai un petit peu expliqué, c'est les intailles et les gammées, c'est-à-dire qu'on va graver en creux ou en relief des pierres, qui sont des pierres assez tendres. Sur l'échelle de Mohs, une échelle sur 10, c'est 4,5 à 5, où on va représenter des divinités, on va représenter des scènes pastorales, des animaux. Au départ, ça peut être tout simplement pour exprimer votre allégeance à l'empereur, au pouvoir impérial, ou ensuite ça peut être un jeu de mots en lien avec votre nom, une divinité qui va vous protéger comme un porte-bonheur finalement. Voilà, et après vous allez avoir aussi des représentations qu'avec des inscriptions magiques, ou qui peuvent peut-être représenter aussi votre nom. On ne connaît pas trop, on n'a pas trop d'informations sur les porteurs de ces bagues. Sachez que la glyptique, donc cet art de creuser la pierre, c'est pas du tout une invention romaine, hein, ça existe depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ en Inde. Pensez au sous-cylindre sumérien. C'est exactement la même technique, sauf que là, on le met en bijou. Comme je vous disais, l'utilisation de l'émeraude, alors pourquoi ? Parce qu'il y a une seule émeraude, c'est celle qui est représentée au numéro 24, c'est la boucle d'oreille. L'autre, c'est du verre. Donc, on utilise des pierres, et quand vous n'avez pas assez d'argent, on va utiliser du verre. Le verre est là, et il est là tout simplement pour imiter la pierre. Pareil, le joli collier qui est bleu et doré, c'est pour imiter perle d'or et de lapis lazuli. On est sur du verre également. Le verre, il se diffuse, il est vraiment pas cher, ça vous permet d'avoir déjà une belle parure. Pour revenir à mon émeraude sur la boucle d'oreille numéro 24, l'émeraude c'est extrêmement rare parce qu'elle doit sa couleur vermontalo au chrome et au vanadium. Mais le chrome dans la nature c'est extrêmement rare. Il y a deux mines que l'on connaît pour vous montrer aussi le trajet, le transport de ces différents bijoux et de ces matières premières. Il y a deux mines, les mines dites de Cléopâtre, qui sont des mines en Égypte, qui sont depuis 1500 avant Jésus-Christ, qui sont actives, et vous avez des mines en Autriche, des mines dites à Abachtal, au sud-ouest de Salzbourg, qui sont utilisées par les Celtes. Et quand on regarde les textes antiques, on se rend compte que Théophraste parle aussi de l'Afghanistan, et Pline l'Ancien parle aussi de l'Oural. Donc, toutes ces pierres font énormément de trajets pour les trouver ici, parce que nous, on n'expose vraiment que des jeux qu'on a trouvés sur le sol arlésien. On n'a pas du tout d'objets qui proviennent de ventes aux enchères, dont on ne connaît pas le contexte. Voilà. Ça, c'est pour l'émeraude, la perle naturelle, juste pour vous dire que cette perle, elle est considérée comme étant extrêmement précieuse, selon Pline, quand on voit son histoire naturelle. C'est la deuxième, la plus précieuse, juste après le diamant. Notice sur le diamant, enfin petit nota bene sur le diamant, les Romains n'arrivent pas à le polir parce qu'il est 10 sur 10 sur l'échelle de notes hyper dur le diamant. Par contre, ils comprennent que c'est déjà quelque chose d'extrêmement précieux. Ils vont le monter brut. Alors brut, c'est un caillou, hein. C'est très moche, mais ils vont le monter sur bague. Ce qui montre tout simplement qu'ils accordent déjà de l'importance et qu'ils comprennent que c'est quelque chose de rare de la nature. Ils vont utiliser par contre de la poudre de diamant, en fait des diamants qu'ils vont trouver dans la rivière, hein, des alluvions, pour polir certaines pierres. Déjà, ils l'utilisent. Voilà. L'utilisation aussi, je voulais vous parler ce qu'on retrouve de plus. C'est dans la partie inférieure de la vitrine, c'est des bagues. C'est vraiment les bijoux qu'on va retrouver le plus en plus grand nombre. Comme je vous disais, ça permet d'afficher sa réussite sociale. Vous pouvez en porter plusieurs à la première et à la deuxième phalange. Ça va être utilisé évidemment pour signer des contrats, mais aussi pour le mariage. C'est les Romains qui vont inventer le fait de donner un anneau. Un mariage est un contrat, ils sont pas du tout romantiques les Romains. Donc finalement, de donner un anneau à la femme en gage du contrat. Le contrat, quand on conclut un contrat en Rome, c'est les manines fédées. En fait, c'est les mains jointes. On serre les mains et vous allez voir beaucoup de camées qui représentent ces mains jointes en fait de l'accord conclu. Et le Moyen Âge. Tout petit peu plus romantique, ça va être les manines fédées, ça va être les bagues comme ceci. Vous savez, des fois, vous avez des bagues avec un cœur qui sont enserrées. En fait, ça vient de là. Ça vient de cette conclusion du contrat romain. Ensuite, je voulais vous montrer également une bague. Alors, il faudra aller la voir, elle est là-bas, c'est la numéro 61. Elle est en opus interacilé, c'est-à-dire qu'elle est travaillée à jour. En fait, on a percé la tôle d'or pour pouvoir y représenter un motif de lotus. Peut-être fabrication égyptienne, et la petite pierre mystère bleue en cabochon est sûrement un saphir. Donc là aussi, saphir, ça vient forcément des Indes. Donc il a fait aussi un très très long voyage jusqu'à nous. Vous avez un gros collier avec de l'ambre qui est fasté, elle vient de la batique, donc voilà, et vous avez aussi de la faïence égyptienne, faïence bleue, ça permet d'avoir de la couleur et d'avoir quelque chose d'assez gros sur vous, et évidemment les anneaux, tout simples. En or aussi qu'on peut avoir également avec les différentes intas qui ont perdu leur monture.